Laurence Aloua. Tegi Mfatrore. Musique du monde sur RFI.
La Sicile et le Brésil sont au centre de nos préoccupations aujourd'hui dans Musique du Monde, avec Laure Briard, dont le cœur balance entre les Touaregs du sud de l'Algérie et la Bossa Nova. Elle sort un nouvel EP, et vous l'aurez compris, c'est le Brésil qui l'a emporté. Notre première invitée s'appelle Julien Le Suisse. Sa voix, son saxophone ont enchanté le rail 2.0 de Sofiane Saïdi et Mazalda. Et c'est sous le nom de Crimi que Julien et ses musiciens revisitent les musiques traditionnelles siciliennes avec quelques lignes de rail bien senties. Crimi sur RFI. Bonsoir.
Amore, amore, quanto si lontano. Continuo con salone dalla sera. Continuo con salone lo sa contare. Ma la gente ti leve alla mattina. Ma la gente ti leve alla mattina. Oh mano, mano, coro, fanno me picchia. Oh mano, mano, coro, fanno me picchia.
Compris, il s'agit du titre Mano d'Oro. C'est le premier single qui porte la sortie de Lucie Guay, Lumière et Embrouille, le premier album de Crimi. Julien Le Suisse nous raconte toute l'histoire.
C'est des chansons en sicilien, moi c'est mon origine. Ma mère est sicilienne, et j'ai entendu plein de musique et puis c'est vraiment un esprit et une âme qui sont très fortes en moi. Puis j'ai fait plein d'autres musiques dans ma vie avec Mazalda. J'ai accompagné des chanteurs algériens, Sofiane Saïdi. Et toutes ces choses-là, elles ont toujours brassé, mais il y avait toujours cette âme très forte du truc sicilien que j'arrivais pas à rendre public. Et puis, il y a 3-4 ans, je me suis mis à prendre des vieilles chansons par le rail. En fait, je suis venu par le rail sur comment Sofiane ou chez Black Dar, les gens qu'on accompagnait, ils faisaient, en fait, en comprenant comment les Algériens avaient fait, avec leur âme, avec leur force, pour faire des choses nouvelles. Et puis ça m'est venu comme ça, et puis c'est descendu comme ça dans ce disque Lucie Guay, petit à petit, chanson après chanson, de reprendre cette langue sicilienne, au début avec des chansons qui existaient, Et puis petit à petit, avec des chansons que j'écrivais, et puis avec cette âme qui du coup est un peu influencée par le raï, et puis qui a vraiment, qui porte ce que j'avais en moi de sicilien.
À l'origine, Julien, vous êtes saxophoniste et chanteur, vous avez travaillé dans différentes formations. J'ai vu que vous aviez fait partie de la Squadra Zeus, ou Zeus, je ne sais pas comment vous le prononcez.
Zeus.
Et déjà, vous étiez très intéressé par les chants de l'Italie du Sud. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez les tamouriates de napolitaines, les tarentelles calabraises, les chants agricoles, les sérénades siciliennes ? Qu'est-ce qui vous parle le plus ?
Tout ça, ça me parle. Hein. Tout ça, c'est incroyable. Moi, j'ai passé vraiment ma vie à écouter ça, quoi, à écouter et puis à aller voir, à aller en Calabre chez des Zampugna, les gens qui jouent la cornemuse et tout ça, et à entendre tout ça, c'était incroyable. Tout ça, ça me parle, la musique napolitaine, la musique, la tarentelle calabraise qui est très très vivante en ce moment. Il y a plein de jeunes qui jouent l'organette ou le petit accordéon ou la cornemuse, et puis les chants siciliens, tout ça, c'est vraiment très profond en moi. J'ai eu de la chance de travailler ça longtemps avec une équipe ici à Chambéry. Moi, je suis à Chambéry, là, donc pas très loin de l'Italie. Et j'ai eu la chance de travailler ça avec des amis, de l'approfondir et dans l'écoute, et dans l'apprentissage de la danse, et dans l'apprentissage des instruments. Moi, j'ai essayé la zampogna, la cornemuse. Ensuite, à un moment donné, je me suis rendu compte que de travailler des musiques qui sont quand même très précises et très localisées, elles ont des règles, elles servent à des danses très précises, très écrites. Tout ça, en fait, de loin, c'était pas possible. Et puis, je pense, pour moi, pour un cerveau comme le mien, ça marchait pas. En fait, j'avais besoin d'écrire mes choses, malgré le fait que je suis très, très influencé par ça. Je vais pas me faire croire que je fais de la musique traditionnelle du sud de l'Italie.
Va a serenare.
suis avec le groupe Crimi. Vous sortez donc ce premier album qui s'appelle Luci e Guai. Alors Luci e Guai, ça veut dire lumière et embrouille. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce titre?
J'aimerais bien savoir.
Moi aussi.
Je sais. Je sais. Je me suis rendu compte que beaucoup des chansons que j'avais écrites ou de chansons de Rosa que je chante, il y en a deux dans le disque. En fait, on l'a entendu dans la voix de Rosa Balistrelli et dans la voix de presque tous les chanteurs siciliens. Il y a un truc qui est rude, il y a un truc qui est beau, mais qui est jamais fait exprès. C'est pas, on cherche pas comme dans la chanson napolitaine, l'ornementation ou tout ça. Il y a un truc qui est vraiment très rude. Et moi, qui me fait penser à Chakharimiti, ces trucs-là, le début du rail oranais et tout ça. Il y a quelque chose comme ça. La beauté, elle est pas inventée. Elle est parce que l'âme, elle est belle comme ça, parce que c'est très puissant. Et du coup, dans les paroles aussi, il y a quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que d'écrire des paroles en sicilien, qui n'était pas une mince affaire pour moi, ça retrouvait quelque chose qu'il y a dans les vieilles chansons, qui est une chose dure, mais toujours une chose lumineuse en plus. Et il y a toujours des ennuis, en fait. Il y a plein de chansons sur des ennuis qu'on a, mais quelque part derrière, ça parle de l'âme, ça parle d'une foi, ça parle d'une confiance ou d'un petit bout d'amour quelque part. Il y a quelque chose comme ça qui est venu après coup, une fois que le disque était fini, où je me suis dit, mais il y a ça en fait. Il y a vraiment ce truc, Luci e Guai, quoi. Il y a beaucoup d'embrouilles, mais il y a quand même de la lumière toujours au-dessus de ça.
Julien, la Sicile est la plus grande île de la Méditerranée. Tout le monde lui est passé dessus, hein. Les Grecs, les Arabes, les Byzantins, les Espagnols. Ce qui explique aussi peut-être ce rapprochement que vous avez eu déjà de manière affective avec Sofiane Saïdi et Mazalda, mais aussi parce que la Sicile a hébergé tout le monde de force.
Carrément. Quand on arrive à Palerme, c'est incroyable, ça saute aux yeux. Les bâtiments, et puis la tête des gens, et puis petit à petit, en fait, on se rend compte de la façon de vivre. C'est un tel mélange, ça saute vraiment aux yeux. La dernière fois que je suis allé dans le bled de mon grand-père, Mazara del Vallo, je suis arrivé et on entendait le muezzin dehors. J'ai dit à ma femme, mais t'entends, on est en Europe et on entend le muezzin. C'est un truc, c'est incroyable. Enfin, on est vraiment dans ce truc de la Sicile. Voilà. Je suis très heureux parce que ce disque-là, Luci e Guai, les chansons qui sont sorties petit à petit, que Airfono, le label, a fait écouter sur Internet, je pensais pas que ça attraperait l'oreille des Italiens du Sud aussi facilement. Et en fait, j'étais très très étonné de recevoir des mails, et j'ai reçu des mails de Siciliens, et d'un coup, pour moi, ça a tout changé. Je me suis dit, mais directement, on peut s'adresser à eux, il faut vraiment qu'on aille là-bas le plus vite possible pour discuter de ces chansons avec eux, pour voilà.
Le clip Kicitalia, c'est comme ça qu'on dit ?
Kicitalia, oui.
Kicitalia, vous l'avez tourné en Sicile ?
Non. On l'a tourné dans le centre de la France, au-dessus de Saint-Agile, à une heure de Paris. C'est Tanguy Lecra qui l'a réalisé. Et on a parlé, Tanguy Lecra, un réalisateur de documentaires. Et un million d'autres choses, c'est quelqu'un qui produit des groupes de musique, qui est musicien lui-même. C'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière, avec qui on a passé des nuits à discuter tout ça. C'est quelqu'un qui vient de Bretagne et qui a un peu une histoire, pour qui la Bretagne en lui est tellement énorme. De la même façon que pour moi, au niveau des sentiments, de la force qu'elle trimballe, des idées, enfin comme moi, c'est-à-dire on sait pas bien quoi en faire. Moi, j'ai jamais vécu en Sicile, et pourtant elle est là en fait. C'est elle qui vit en moi, et je sais, voilà, il va bien falloir en faire quelque chose. Et avec Tanguy, on a passé des nuits à discuter de tout ça. Et une des idées, justement, c'était pas de faire semblant. Moi, je vais jamais faire semblant d'être sicilien. Enfin, je suis sicilien de mon histoire et de ce que je veux raconter, mais je vis pas en Sicile, je parle pas couramment sicilien, et je veux pas faire croire ça. Donc l'idée n'était pas de tourner en Sicile et de faire semblant de l'être. Par contre, ce qu'on joue avec la fanfare Circa Tsuika, la super fanfare du cheptel Alekoum, ce qu'on joue, c'est un morceau, c'est les morceaux de Nenia Funebre, c'est des morceaux très siciliens. Et puis ensuite, la chanson de Crimi, bon, elle est en sicilien. Mais l'idée, c'était de tourner, du coup, dans un endroit, donc c'est vraiment, ça ressemble à un endroit français. Il y a quelques petits, ça pourrait être avec les villages en pierre, comme ça, ça existe en Sicile. Mais il y a le froid, il y a la végétation, on voit bien que c'est pas la Sicile. On veut pas faire croire ça. Et c'était vraiment l'idée avec Tanguy de poser cette question-là.
Me.
La Sicile a longtemps été l'île que l'on squatte, alors pas une semaine, un mois, hein, je parle de 3-4 siècles. Malheureusement aujourd'hui, la Sicile, c'est l'île que l'on quitte, alors pas parce qu'on l'aime pas, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de travail. Julien Le Suisse.
Il y a des milliers de gens qui immigrent, ça n'a pas changé. Rien ne s'est arrangé depuis que mes grands-parents ont dû partir parce que mon grand-père était dans les syndicats et que du coup, il n'y avait pas moyen de travailler. Personne ne voulait l'embaucher. Bah, c'est pareil en fait maintenant. C'est-à-dire, on vous embauche un jour sur 10 si vous êtes bien sympa. C'est-à-dire, les choses ont difficilement changé. Et maintenant, les gens vont plutôt en Australie qu'en Europe ou en Amérique. Mais bon, voilà, en gros, il y a ce truc-là. Par contre, tous les gens qui sont loin de la Sicile, moi je rencontre des communautés siciliennes un peu partout, de New York en Belgique à voilà. Et en fait, tout le monde en rêve comme de c'est le paradis qu'on a laissé, c'est parce que la nature, parce que la culture, tout ça est incroyable, il y a une douceur géniale, mais vivre au jour le jour, là c'est une autre histoire.
We'll be right back.
C'était Julien le Suisse du groupe Crimi. Le premier album s'appelle Luce Guai. C'est sorti chez Airfono. Tous les détails de cet artiste sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde sur le musique.rfi.fr. D'ailleurs, à ce sujet, on vient de sortir une nouvelle vidéo de la série Nouvelle Ère avec RFI Vidéo. C'est justement sur Crimi. Donc, si vous voulez voir la tête de Julien, vous foncez sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. Pardon ? TikTok ? Non mais ça va, j'ai pas 12 ans et demi non plus. Bon, maintenant, c'est la session live avec une voix et une vraie guitare dans le grand studio.
Musique du monde sur RFI.
Laure Briard est une récidiviste. C'est la deuxième fois qu'elle s'embarque dans un projet lusophone avec ses amis brésiliens du groupe Bugarins qu'elle a rencontré lors d'un concert au Mexique il y a quelques années. Fan de musique brésilienne, elle se met à écrire en portugais avec la bénédiction de la déesse Yemanja, de la pieuvre et de la bossa nova. Tout cela est très très mystérieux. Laure Briard est notre invitée.
Morena na janela, na tela do ouro. E a lua sorrindo lhe acalentou, não demora. Oh, não demora.
Na beira do rio, arenado chega. O desejo a brotar. Desejos no ar.
Meu corpo mental querendo, seu corpo no meu tremendo. Teu corpo mental querendo, seu corpo no meu gemendo. Oh, não demora. Oh, não demora. Oh, não demora.
Les vies de Laure Briard sont innombrables. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Morena na Janela. Je ne suis pas sûre de la prononciation.
Non, tout à fait.
Ça va ?
Na Janela, oui.
D'accord.
Ils ne disent pas le « je ». Janela.
Oui, c'est vrai, côté lusophone. Et alors, ça veut dire, Morena, je me doute un peu.
Oui, une brune à la fenêtre.
Une brune à la fenêtre. C'est extrait d'un EP qui vient de sortir et qui s'appelle
Evo.
Voilà, ça évoque qui, Evo ?
Ça évoque la lévitation, je vole, en fait.
J'ai vu
dans les airs.
C'est bien, quand on voit la Terre aujourd'hui, on n'a pas tellement envie de redescendre. J'ai vu que vous aviez une passion pour un orisha de la mer, pour une déesse qui s'appelle
oui.
Yemanja.
Yemanja, était... oui,
voilà.
C'est ça.
Qu'est-ce qui vous arrive ? Parce que vous n'êtes pas du tout caribéenne.
Pas du tout,
pas
non.
Pas d'origine Yoruba.
Non. Comment c'est arrivé ? C'est arrivé... Bah déjà, j'ai mon rapport à l'océan, déjà, depuis toujours. J'ai un rapport assez fort, symbolique. Enfin, quand je vois l'océan, ça me fait vraiment quelque chose. Déjà, depuis toute petite. Et en fait, au Brésil, je suis tombée sur Yemanja... dans des chansons, je suis tombée sur elle en images. Et du coup, je me suis intéressée, j'ai lu plein de trucs, parce que je m'intéresse aussi au vaudou. Donc du coup, ça m'a amenée vers le candomblé, qui est donc une religion afro-brésilienne. et donc j'ai lu plein de trucs et ça m'a passionnée. Et du coup, j'ai senti une connexion divine avec Iemanjá.
D'où vient cette passion pour le Brésil ? J'ai bien compris que vous aviez rencontré des gens très intéressants dans un festival américain en 2017, mais vous allez nous raconter la suite.
La suite ou l'avant ?
L'avant. L'avant, d'accord, j'ai bien compris, c'était l'avant qu'il fallait demander.
Non, mais bah, l'avant, en fait, il n'y a pas vraiment d'avant. C'est juste, voilà, je découvre de la musique brésilienne, je ne sais pas, entre vers 25 ans. Parce que c'est vrai que j'étais quand même pas fermée, mais j'écoutais pop, psyché, rock, 60s, 70s, anglaise, américaine, bon, musique française aussi. Et je n'étais pas trop curieuse, on va dire. Et un jour, un ami qui s'appelle Julien Gasque m'a prêté son petit iPod. Et
il y avait... À quoi Serge ?
Oui, oui, oui.
La Toulouse. Toulouse, c'est ça. T'as même pas là, toute la famille.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, sur ce petit iPod, il y avait plein de trucs que je connaissais pas, enfin, forcément. Et notamment des albums de Vinicius de Moraes, d'Astrud Gilberto, de Tom Zé. Et j'ai écouté ça et je me suis dit, mais pourquoi j'ai... Je suis jamais allée par là, en fait. Et voilà, ça, en fait, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à rechercher des trucs moi-même, à diguer sur YouTube et machin, et des liens, nanana. Et je me suis mise à écouter vraiment de manière obsessionnelle de la musique brésilienne, quoi. Et après, il y a eu la rencontre avec ce groupe brésilien.
Bugarins. Ouais. Alors, Bugarins, c'est un groupe de rock qui est né il y a 8 ans, enfin en 2013. Vous les avez rencontrés à Southwest.
Southwest.
Oui, voilà.
Austin.
Austin, Texas. Oui. Le psychédélisme, c'est un style qui est quand même lié au LSD, les États-Unis, les années 60. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut se droguer pour faire de la pop-psyché ou alors aller à Goa pour la psy-trance ?
Je pense pas, non, je pense pas.
Vous êtes au thé vert, d'accord.
Ouais, c'est ça.
On va s'ennuyer dans cette émission.
Non, non, en plus, vous dites ça, mais non, pas du tout. J'étais sous tramadol quand j'ai composé mon...
Vous supportez le tramadol.
Mais j'étais obligée d'en prendre.
Oh là là.
Non, je prenais pas
ça
pour mon plaisir.
Ça fait faire des mauvais tris. Non, non, mais vous aviez mal quelque part.
Oui, oui, j'avais d'accord. Une pneumopathie.
Ah oui, en effet.
Donc j'étais sous tramadol, mais c'était quand même une expérience. Je dis pas qu'il faut composer sous drogue. Hein.
Donc, le rock psyché de Bugarins vous intéresse ? Ils sont brésiliens, ils sont de Rio, de Sao Paulo ?
De Goiânia, dans les terres.
Dans les terres. Mmh. Et ça se passe comment pour la production, par exemple, de ce nouvel EP, Evo ?
Alors, comment ça se passe ? En fait, donc du coup, j'avais déjà enregistré un premier EP avec eux 2 ans auparavant, qui était un peu plus DIY. On avait fait ça dans un studio chez des amis à...
Coração Louco.
Coração Louco, oui, tout à fait. À Mogi das Cruzes, pas loin de São Paulo. Et cette fois-ci, en fait, j'avais dans l'idée de faire quelque chose d'un peu plus produit, un peu moins à l'arrache, mais j'ai adoré faire le premier aussi. Mais un truc différent, quoi. Plus produit, avec un piano, dans un beau studio. Et quand même, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un ami au Brésil qui s'appelle André et qui m'a dit, mais j'ai un studio là, j'ai une amie qui travaille dans un studio à São Paulo, un super studio. Je me suis dit, non mais attends, on va pas pouvoir y aller. Et en fait, tout s'est enchaîné super bien. Et grâce à mon label, Midnight Special Records, et des aides aussi, des subventions, la Dami, tout s'est fait comme ça. On a booké le studio. Le prix, ça allait. Et puis bon, après, il faut dire que les prix au Brésil et en France, c'est pas pareil. Et voilà, et l'équipe autour. Et enfin, je sais pas, ça s'est fait hyper facilement.
Dès la première collaboration.
Et dès la première collaboration, mais qui était donc dans des conditions plus, plus DIY, donc comme je l'ai dit.
Do it yourself.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et la débrouille.
Ouais, la débrouille, ouais. Mais pareil, mon label m'a soutenue. Pareil, on a eu des aides aussi. Enfin, à chaque fois, je sais pas.
Ça a l'air simple.
Pour ça, oui. Après, il y a d'autres choses moins simples, hein. C'est évident. Mais par rapport à cette connexion avec le Brésil et ces deux enregistrements, c'était assez évident et simple au final.
Pour une jeune fille qui a démarré sa carrière discographique avec Chante la France, ouais. On peut dire que la traversée de l'Atlantique a été une réussite.
Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. C'est...
J'ai pas dit que Chante la France était un sous-produit.
Ah attention. Non, non, mais pas du tout. Mais ça n'a rien à voir et c'est différent.
Laure Briard, vous avez noté qu'il y a un fauteuil, 2 micros, une guitare.
Je crois que j'ai vu, oui.
Et vous pensez que vous croyez que peut-être vous pourriez chanter ?
Peut-être.
Quel
peut-être.
Titre ?
Alors, c'est un titre du premier EP. Qui s'appelle Tomada da Decisão, qui veut dire prise de décision.
On parle de quoi ?
De la vie, des prises de décision, de s'affirmer, de faire des choix.
Laure Briard sur RFI dans la session live.
Um dia será preciso decidir escolher saber
Laure Briard sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde. Sur RFI.
C'était Laure Briard, guitare-voix avec le titre Tomada de Decisão, sans le groupe Bougarins, puisque vous êtes toute seule en studio. Vous préférez quand les musiciens sont avec vous, toute seule, ça vous...
Ouais, je préfère quand même qu'ils soient avec moi, oui, c'est plus marrant. Ça...
Faire de la scène seule, c'est pas très marrant.
Non, j'ai jamais essayé, vraiment. On part pour des petits lives comme ça, mais... L'idée m'emballe pas plus que ça, mais...
Alors Laure, je suis très étonnée par votre parcours. Vous avez démarré discographiquement en 2012 avec ce fameux Chante la France chez Tricatel, donc Mister Burgala, avec Bertrand Burgala. Quelques albums quand même, Révélation, Sur la piste de danse, le fameux Curaçao Luco. Et en 2019, Un peu plus d'amour s'il vous plaît. Alors vous n'êtes pas Madame Soleil, hein, parce que ça n'a pas marché. Et donc ce nouvel EP, Evo, c'est comme ça qu'on le dit.
Evo.
Evo, voilà, c'est ça. Il n'y a pas que le Brésil qui a retenu votre attention, mais j'ai lu que vous avez passé un petit peu de temps dans le sud de l'Algérie, ce qui n'est pas banal, parce que vous avez côtoyé les hommes bleus, comme on dit.
C'est ça.
On dit le voile bleu parce que je crois que c'est la teinture de
leur
turban
qui déteint,
déteint sur la peau avec le soleil et la transpiration. Je ne sais pas si ça déteint sur vous, mais racontez-moi vos aventures... Dans ce milieu-là, dans le milieu Touareg, du sud de l'Algérie, du côté de Tamanrasset.
Ouais, alors c'est pas mal parce qu'en fait, déjà j'ai découvert la musique d'Algérie avec des groupes comme Imaran ou Tam Crest aussi. Enfin, ils se connaissent tous de toute manière, voilà. Donc je me suis...
C'est la même...
Oui, c'est limite les
mêmes peuples.
Ils sont,
ils sont sur le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye.
Ouais, hein. Même parfois de la même famille et tout ça. Donc j'ai beaucoup écouté. En fait, comme j'ai des phases assez obsessionnelles parfois, je me suis mise à regarder plein de documentaires, de reportages sur l'Algérie, et notamment sur le désert, le Sahara, Tamanrasset, et je suis tombée sur une émission sur Tamanrasset, et donc il y avait une guide qui habitait là-bas, et qui habite à Paris aussi, dans l'émission, qui faisait découvrir la ville et tout ça, avec sa famille et tout, et en fait, je l'ai contactée en lui disant j'avais trouvé ça magnifique, et je lui disais, j'aimerais bien y aller, est-ce que vous pouvez me conseiller, et en fait, en gros, j'ai atterri dans la famille, chez eux, quoi.
Là, là. Vous êtes resté combien de temps ?
Je suis restée une vingtaine de jours.
Oui. Et sur place, vous avez fait de la musique ou vous étiez là en voyageuse ?
J'étais plutôt là en voyageuse, mais vu que je connaissais un peu les gars d'Imaran, je suis allée dans leur studio et bon, ils font de la musique. Les gens là-bas, ils...
Ça fait partie de la vie du
quotidien. Oui, c'est vraiment... c'est partout, quoi. Et du coup, j'ai pas mal traîné avec eux. Et j'ai même chanté une chanson en tamashek.
Qu'on peut retrouver où ?
Nulle part, sur mon ordi.
Oh, ça sortira jamais ?
Non, c'était vraiment pour essayer, pour rigoler. Et après, j'aimerais beaucoup collaborer avec des artistes de là-bas que j'ai rencontrés.
Faire un projet un peu plus
sérieux ? Ouais,
un
truc un peu plus sérieux. J'aimerais beaucoup, ça fait partie de mes rêves.
Vous avez quoi, une trentaine d'années, je sais à peu près.
Ouais.
Donc, vous êtes... Non, ça veut dire que vous êtes un millénial, comme on dit. À partir des années 85, on vous appelle les milléniaux.
Ah d'accord. Okay.
Oui, non, mais ce sont des cases
voilà.
Ériger les générations les unes contre les autres, c'est très sympathique. Et donc, vous avez grandi avec Internet, donc évidemment, grâce à la toile, on a accès à énormément de sons, énormément d'images, même presque trop. Donc, que vous passiez du temps au Brésil ou en Algérie, à la limite, c'est comme si vous étiez resté à Toulouse, sauf que dans les faits, vous avez véritablement bougé. Le monde s'offre à vous, s'invite chez vous avec l'ordinateur, et ça donne parfois envie de prendre un billet d'avion.
Ouais, après, c'est pas pareil, ouais.
Non.
Ouais, c'est clair que l'expérience...
Ah, les odeurs, le relief, les gens, le contact.
Ouais. Non, c'est sûr, on peut pas faire mieux.
Vous m'expliquez un petit peu le titre Now Me Diz Nada, qui va terminer cette émission et qui est sur votre album.
Ça veut dire ne me dis rien. que j'ai donc écrite. Et mon ami Vincent Guyot, mon musicien qui fait des claviers et qui, avec qui je compose et écris, a fait la mélodie. Donc, comment dire, sur la relation avec quelqu'un, les non-dits, les choses qu'on devine, le sous-texte.
Est-ce qu'au Brésil, le groupe qui vous accompagne,
Bugarins,
a fait écouter le travail? Comment on réagit à la musique et au chant d'une Française qui s'exprime, je veux dire en brésilien, parce que c'est un portugais particulier, et encore, on ne parle pas le même du Nord au Sud.
Oui, tout à fait. Mais j'ai pu le vivre ça pendant mes tournées, en fait, quand je chantais des morceaux en portugais. Du coup, j'avais le public qui venait me voir et j'avais vraiment les retours directs. Après, j'ai le retour des Bugarins. Et forcément, ils trouvent ça très charmant, quoi. Parfois, ils comprennent pas ce que je dis, mais ils m'ont dit, mais t'inquiète, nous aussi, dans nos chansons, parfois, les gens comprennent pas ce qu'on dit, y a pas de souci. Je dis, ok. Mais après, c'est vrai, ils étaient là pour me gérer au niveau des accents, des mots, parce que parfois, j'aimerais que ce soit compréhensible au minimum, quoi. Mais ça marche bien.
Laure Briard, comment vont se passer les prochains mois pour vous? Je parle de boulot parce que beaucoup de festivals annulent. On ne sait pas trop à quelle sauce le spectacle vivant va être mangé, respiré, annihilé. Non, pas annihilé, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que vous avez des dates? Est-ce qu'on vous propose des choses fin d'année?
Alors,
la pandémie étant passée par là.
Au niveau des dates, c'est quand même assez obscur, j'avoue. Après, moi, je vais certainement enregistrer un album.
Vous l'avez déjà en tête, il est déjà prêt.
Ouais, c'est déjà... Le process est avancé, mais au niveau des dates et tout ça, parce que je ne sais pas, surtout que moi, j'ai la possibilité, la chance d'avoir un label maintenant en Australie qui a sorti ce disque aussi. Et donc, l'idée, c'était d'aller en Australie, d'aller au Canada, et des trucs comme ça.
Oui, des trucs comme ça.
Et donc, je ne sais pas.
Vous êtes trop jeune pour être vaccinée.
Non, je pense que j'ai l'âge. Oh.
C'est au-dessus de 18 ans, vous avez raison. Bien, est-ce que vous voulez dire quelque chose qui vous semble important sur ce nouvel EP ou ce qui va se passer par la suite sur le prochain album? Un truc que vous aimeriez évoquer, une question que je n'ai pas posée?
Non.
Qu'est-ce qui vous manque en ce moment?
Les voyages, le live, l'espoir. Non, on a de l'espoir. Mais effectivement, c'est vrai que moi, je puise beaucoup de mes ressources. Enfin, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie. Ça me rebooste vraiment quand je... en voyage et encore plus en voyage loin pour jouer, pour faire des concerts. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi parce que je sais pas, ça me nourrit et là c'est vrai que ça fait longtemps et donc je veux pas me plaindre parce qu'il y a pire que de pas partir à l'autre bout du monde pour faire des concerts, mais moi ça me manque parce que ça c'est un truc qui m'inspire et qui me... Je sais pas, c'est ma vie, quoi.
Ouais. Une alternative, devenir ermite dans le désert.
Ouais, voilà,
comme
j'ai pensé aussi. Ouais.
Mais vous avez hésité
bien. Ouais, j'ai hésité, ouais.
Oui.
Ouais.
Ça vous a laissé une marque particulière? Comment on se sent quand on se retrouve dans des murs pareils, qui sont emporteurs d'histoire, de
mémoire? Ça fait quelque chose, hein, parce qu'après, moi, je ne suis pas forcément croyante. Si, je crois en des choses, mais non, c'est quand même hyper symbolique. Et je ne sais pas, en plus, je m'étais bien renseignée et ça fait quelque chose, quoi. C'est assez puissant, je trouve. On ressent des trucs.
Rendez-vous au prochain album. Merci, Laure Briard.
Merci beaucoup. Thank you.
Laure Briard était l'invité de la session live à l'occasion de la sortie de son EP Eovo. En 1981, l'artiste avant-gardiste Laurie Anderson sort le titre « Au Superman » qui, à la surprise générale, la propulse au rang de superstar. Laurie Anderson a 34 ans, elle vit à New York. Elle a plus l'habitude de réciter de la poésie et faire des concerts expérimentaux avec un violon électrique que de caracoler en tête des charts avec « Soft Cell » ou « Human League ». Warner la signe et sort l'album « Big Science » en 82. Par la suite, elle participera aux bandes originales du cinéaste allemand Wim Wenders jusqu'à ses « Song for the Bardo » en 2019. Où il est question d'état de conscience proche du sommeil, de la méditation ou de la mort. Oui, ça fait 40 ans qu'on vit sous l'hypnose de O Superman. Laurie Anderson sur RFI.
O Superman. O Jah.
Musique du monde sur RFI.
RFI, la